La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Éric de Chassey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art.
Bonjour.
Je vous ai invité donc pour parler évidemment de l'INHA. Nous allons faire cela longuement. Mais peut-être pouvez-vous tout d'abord nous présenter en quelques mots votre carrière avant l'INHA. Vous êtes spécialiste d'art contemporain. Alors c'est vrai qu'il est rare qu'à la Tribune de l'Art nous recevions des spécialistes d'art contemporain, non pas par sectarisme, parce que la Tribune de l'Art s'arrête en fait là où vous commencez presque, comme dans vos études, en tout cas dans vos recherches d'histoire de l'art. Mais bien sûr, l'INHA, ça n'est pas que l'art contemporain, c'est également les arts de toutes les périodes et d'un peu de tous les pays. Donc, dites-nous d'abord votre parcours et ensuite, peut-être, expliquez-nous pourquoi et comment vous envisagez, vous êtes arrivé il y a un peu plus d'un an à l'INHA, de mixer à la fois cet art contemporain avec l'art plus ancien.
Alors ça fait beaucoup de questions, hein. Je vais répondre peut-être petit à petit aux différentes questions et puis vous me relancerez parce que sinon je crains que effectivement les auditeurs pensent qu'ils ont affaire à un cours, ce qui est sans doute un résultat de ma carrière jusqu'à maintenant puisque je suis d'abord et avant tout un historien de l'art ayant travaillé à l'université. Je me suis spécialisé effectivement très tôt, c'est-à-dire à partir de ce qui était à l'époque la maîtrise, pas encore le master, mais enfin ça correspond à peu près à la même chose sur l'après 1945, enfin la deuxième moitié du XXe siècle. On était à l'époque, au début des années 1980, loin de penser au XXIe siècle encore. Et assez rapidement, je me suis surtout intéressé aux échanges artistiques entre les États-Unis et l'Europe. D'abord à travers le prisme de la réception états-unienne de Matisse et de son effet sur l'art américain de cette période. Et puis petit à petit, en élargissant les choses, d'une part en m'intéressant de plus en plus à l'époque très contemporaine, en organisant de nombreuses expositions d'artistes vivants, en écrivant sur leur travail. Et puis en m'intéressant en amont aussi et de façon plus large que ce qui m'avait retenu, qui concernait surtout les années 1930 aux années 1950, en travaillant depuis sur des périodes qui vont de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle, beaucoup sur ces échanges transculturels, beaucoup sur les questions d'abstraction, que ce soit dans la photographie ou dans la peinture ou dans la sculpture, à une culture visuelle plus large aussi qui intègre la culture visuelle populaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Tout ça en menant une carrière universitaire traditionnelle. J'ai commencé par être maître de conférence à la Sorbonne, puis je suis devenu professeur à l'université de Tours. Et puis là, les choses ont un petit peu divergé. J'avais organisé déjà un certain nombre d'expositions. J'avais fait plusieurs programmations de divers types. Et c'est ce qui m'a conduit à être appelé à la direction de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Et de rassembler des activités qui étaient jusque-là des activités assez diverses, y compris, pour répondre à votre préliminaire, y compris un intérêt pour l'art de toutes les périodes, et pas seulement pour celui de la période dont je suis plus particulièrement spécialiste. C'est ce qui m'a donné notamment l'occasion, et c'était évidemment pour moi un grand plaisir, et en même temps c'était intéressant de croiser les choses, de travailler à une exposition sur Poussin et l'histoire de Moïse avec Marc Bayard en particulier.
Une exposition qui était à Bordeaux également, que j'ai vu à Bordeaux personnellement.
Voilà, qui est une exposition qui a ensuite circulé à Bordeaux et à Paris, et qui où c'était abordé par les commissaires je dirais plus traditionnel d'un point de vue qui était vraiment un point de vue de 17e. Et moi, je m'étais intéressé surtout à la question du format chez Poussin, c'est-à-dire le format au sens moderniste du terme. Pourquoi chez Poussin, de façon très singulière, l'agrandissement ne fonctionne pas et oblige à l'agrandissement ou la transposition dans un autre médium. Et ça me semblait répondre à quelque chose qui est très courant dans l'histoire de la peinture du XXe siècle, qui est cette question de ce que les Américains appellent le format, qui n'est pas la même chose que les dimensions, qui est la pensée unitaire du tableau. Alors évidemment, ça n'était pas le centre de mes activités quand j'étais à la Villa Médicis. Il y avait beaucoup de choses qui avaient à voir avec le trait contemporain. Mais je me suis aussi, j'ai essayé de dynamiser la politique de restauration et de préservation. Et je suis extrêmement content, je dois dire, que on ait pu, au moment où j'ai été directeur, rénover l'ensemble des intérieurs de la villa, l'ensemble des fresques de Zucchi et le penser en unité avec celle de Balthus. Il me semble que c'est peut-être à ce moment-là que certains ont pu penser que j'avais un intérêt plus large que cette période dont vous parliez, et que ça a conduit en 2016 à ce que je sois candidat à la direction de l'INHA.
Est-ce que vous enseignez toujours, maintenant que vous êtes à l'INHA est-ce que vous, d'ailleurs, quand vous étiez à la Villa Médicis, est-ce que vous avez cessé d'enseigner, parce que c'est compliqué de mener peut-être de front les deux choses?
Alors, c'est compliqué. En fait, pendant que j'étais à la Villa Médicis, j'ai changé d'alma mater. Je suis devenu professeur à l'École normale supérieure de Lyon en histoire de l'art, en n'arrivant jamais très bien à enseigner autant que je l'aurais voulu, essentiellement pour des raisons administratives, je dois dire. Et par exemple, à ma prise de fonction à l'INHA, j'ai souhaité conserver un enseignement. De toute façon, à l'ENS, l'avantage est pour ce genre de choses, c'est que l'emploi du temps est assez réduit. Je l'ai fait l'année dernière, et cette année, encore une fois pour des raisons administratives qui ne tiennent pas du tout à ma volonté, mais à un certain nombre de rigidités administratives françaises, je ne peux pas enseigner. Mais le contact avec les étudiants et avec les chercheurs est pour moi très essentiel.
Alors, arrivons à l'INHA, donc, vous êtes arrivé depuis un peu plus d'un an, c'est cela ?
J'ai été nommé au mois de juillet 2016, oui.
Alors, venant de la Villa Médicis, vous connaissez forcément l'INHA, puisque tous les historiens de l'art fréquentent peu ou prou l'INHA. Quel a été votre premier bilan quand vous êtes arrivé, votre premier constat ? Et après un an, quels sont les principaux enseignements dont vous tirez de cette année ? Et quels sont... On verra ensuite en détail tous les programmes du INHA, ce qui est très riche. Hein, je suis allé sur le site. Il y a vraiment, évidemment, on ne se rend pas compte qu'il y a autant de choses. Quels sont vos grands objectifs pour les années à venir?
En fait, j'ai eu énormément de chance d'arriver à la tête de l'INHA dans ce moment-ci de son histoire. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où tout le travail qui avait été fait par mes deux prédécesseurs, Alain Schnapp et Antoinette Lenormand-Romain, depuis la création de l'INHA en 2001, et même avant pour ce qui concerne Alain Schnapp, puisqu'il était chargé de la préfiguration de l'établissement, pouvait porter complètement ses fruits. Et la première chose qui est le résultat de ce travail, c'est la possibilité d'ouvrir cette très grande bibliothèque d'histoire de l'art, sans doute la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art et d'archéologie au monde. C'est en tout cas ce que me disent mes collègues états-uniens avec lesquels on nous compare en général, a été rendu possible avec un travail très remarquable aussi des directrices successives de la bibliothèque, Martine Poulain et Anne-Elisabeth Buxdorf, des équipes qui ont pendant des années à la fois combattu sur le front de la discussion institutionnelle pour faire en sorte que cette installation qui avait été décidée il y a une dizaine d'années puisse voir le jour, parce qu'évidemment il y avait des résistances importantes, que les transferts d'ouvrages puissent se faire dans les meilleures conditions. Et puis, ce que peut-être on a moins pris en compte, que cela aussi s'accompagne d'une fusion, d'une absorption de différentes bibliothèques. Ce n'est pas une fusion complète, chaque collection reste identifiable, parce que l'histoire de l'art est une science historique, donc elle est attachée à ce que les choses puissent être retracées, mais qu'on est présent comme fond accessible, à la fois... le fonds d'origine de cette bibliothèque, le fonds qui avait été assemblé par Jacques Doucet au début du XXe siècle, avec l'idée d'être le plus universel possible et le plus complet possible à la fois sur toutes les périodes, tous les types de pratiques artistiques et toutes les civilisations. plus ce qui, au fil des années, avait accru cette collection d'origine, et avec un accroissement tout à fait phénoménal à partir de la création de l'INHA, avec des budgets d'acquisition extrêmement importants, à la fois pour la partie de collection courante et puis pour la partie d'archives. Et puis, que soit intégré à cela la Bibliothèque centrale des musées nationaux, qui était jusqu'à présent conservée au Louvre et dont la plus grande partie est aujourd'hui dans les collections de la bibliothèque de l'INHA.
Ce qui a fait un peu râler certains conservateurs.
Bon, tout changement fait râler certaines personnes parce que ça change des habitudes. Ce qu'on peut dire, c'est que à 9 mois à peu près de l'ouverture, de la réouverture de la bibliothèque en salle Labrousse, tout le monde voit bien quel est l'intérêt que ces collections puissent être accessibles d'un seul tenant. Mais ça a été évidemment un énorme travail d'indexation, de recotation, de disposition des ouvrages dans les rayonnages, etc. Avec là aussi, et j'en remercie vraiment mes prédécesseurs et les équipes qui travaillent aussi, cette idée qui était une idée que André Chastel avait dès le départ de la pensée du moment où il avait pensé la nécessité de l'INHA, c'est-à-dire d'une bibliothèque en accès direct. On a un peu réduit, pour des raisons de place, le nombre d'accès qui sont disponibles. On a aujourd'hui 150 000 ouvrages en accès direct. Mais je crois que tout le monde voit bien que jusqu'à présent, en gros, pour ceux qui voulaient travailler avec des ouvrages en accès direct en histoire de l'art, il fallait aller essentiellement aux États-Unis. C'était toujours ça la comparaison. Et que là, on a un outil qui est un outil extrêmement précieux pour tout le monde. Donc, je suis arrivé au moment de la réouverture, enfin quelques mois avant la réouverture, donc dans un certain sens, je n'ai eu qu'à accompagner cette réouverture, à faire en sorte qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, qu'on ait à faire des très petits réglages de dernière minute, mais d'une certaine façon, tout avait été fait. Je suis arrivé aussi dans une institution où les programmes scientifiques étaient des programmes solides. Il y avait des programmes qui avaient déjà une grande visibilité. Je pense par exemple au rétif, c'est-à-dire au répertoire des tableaux italiens dans les collections françaises, qui a permis notamment un certain nombre d'expositions, dont tout récemment les expositions qui ont eu lieu dans les musées du Nord, je ne sais plus comment on appelle maintenant, dans les Hauts-de-France.
Hauts-de-France, c'est un terme que j'ai du mal à employer, moi je dis Nord. Pas-de-Calais, Picardie.
Bon, enfin, bref.
Plus simple, je
donc,
trouve.
Donc, Picardie est un peu
D'ailleurs, en fait, c'était plutôt...
C'était quand même franchement Picardie.
C'était franchement Picardie. Au départ, c'était Picardie. Et après, il y a eu la fusion. Voilà. Il reste que je crois que le musée du Louvre-Lens va présenter quelques tableaux dans les italiens des collections des Hauts-de-France.
Enfin, exactement.
Hauts-de-France, du Nord. Nord-Pas-de-Calais.
C'est bien pour ça que je cherchais ce terme-là. Donc, on avait ces programmes scientifiques qui étaient déjà très, très visibles, très, très avancés. D'une certaine façon, le constat que j'ai fait était celui de cette solidité pour une institution qu'on disait à l'extérieur relativement fragile. Il se trouve que moi, j'avais surtout fréquenté l'institution au moment où elle avait été très menacée et où nous avions, avec quelques collègues, initié une pétition.
C'était quand ça
Je ne sais plus la date exactement.
Ah
c'est
bon
2006.
Ouais.
Dans mon souvenir, c'est 2005-2006. J'ai un peu oublié parce que ça semble en tout cas remonter pour moi à la préhistoire. Mais c'était à ce moment-là que j'avais vraiment beaucoup fréquenté l'institution en participant à ce combat de façon extrêmement active, en ayant des rendez-vous à droite et à gauche pour persuader du bien fondé de l'institution. Et moi, je suis arrivé dans une situation où mes prédécesseurs avaient fait en sorte que l'institution soit effectivement extrêmement, extrêmement solide. Le constat que je pouvais faire à partir de cette situation était sans doute que cette solidité en interne s'était faite sans que l'institution sorte véritablement de ses murs. C'est-à-dire qu'elle est à la fois peu visible et peu repérée de l'extérieur, en particulier de ceux pour qui l'histoire de l'art n'est pas le quotidien, parce que je pense que pour ceux pour qui l'histoire de l'art est un quotidien, elle est très repérée. Et puis, d'autre part, elle avait peu, enfin, l'institution, pour l'instant, a peu de rapport avec le monde extérieur de façon générale, même si, je l'ai dit tout à l'heure, la bibliothèque en particulier est une institution, enfin, est une entité qui est extrêmement ouverte sur l'extérieur et qui accueille de très nombreux chercheurs. Donc le premier diagnostic a été celui-là, mais je ne voulais pas que mon diagnostic un peu superficiel comme cela oriente l'ensemble de la politique qu'on pouvait mettre en place. J'ai eu le sentiment que cette réouverture de la bibliothèque avait constitué très largement le programme scientifique de l'établissement. Et c'est en soi un programme scientifique important. Établir une bibliothèque sur des bases solides, faire en sorte qu'elle soit organisée pour les chercheurs, qu'elle ait des programmes d'acquisition d'archives et de collections permanentes importants. Tout cela, c'est en soi une politique scientifique. Mais une fois qu'on a ouvert, il faut un pas supplémentaire, d'où l'idée de définir véritablement une politique scientifique. Et plutôt que de le faire, moi, ex abrupto, ce que j'ai proposé à l'ensemble des équipes qui l'a accepté et qui a accompagné ce mouvement, c'est de mener une véritable réflexion collective. Et donc, dès le mois de septembre 2016, j'avais été nommé au mois de juillet, j'ai rassemblé toutes les équipes pour leur soumettre des questions de stratégie scientifique et que nous réfléchissions d'abord en interne à ce que nous pouvions attendre de l'INHA, quelles améliorations nous pouvions en attendre, quels étaient les points de solidité, qu'on fasse un diagnostic qui soit un diagnostic pleinement partagé. Donc ce processus qui s'est d'ailleurs déroulé au moment même où les opérations de transfert physique des collections de la bibliothèque se passaient, ce qui veut dire que les équipes ont été très sollicitées dans ce moment-là et elles ont répondu très fortement présent. Tout ce travail a permis d'arriver à des diagnostics partagés, dont celui que je viens de vous dire. Il y a un deuxième temps de cette réflexion qui est un temps plus en synergie avec l'extérieur, puisque l'INHA a un mandat national. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas pour l'INHA d'être un centre d'art, un centre de recherche artistique supplémentaire. Il ne s'agit pas pour l'INHA d'être une bibliothèque supplémentaire, il s'agit d'être un instrument de fédération de tout ce qui a trait à l'histoire de l'art et du patrimoine en France. Et donc, nous sommes actuellement dans un processus qui est un processus d'interrogation de l'ensemble des parties prenantes de l'histoire de l'art et du patrimoine en France et aussi à l'étranger, puisque nous avons de très nombreux partenariats à l'extérieur que nous essayons de renforcer, d'organiser. Et c'est cette interrogation collective que nous sommes en train de mener, ce qui n'empêche pas déjà, et vous proposiez qu'on rentre dans les détails, et je pense que c'est la meilleure manière de le faire, que nous ayons avancé sur un certain nombre de terrains qui nous semblaient prioritaires.
Alors effectivement, on va détailler tout cela. Sur le fait que l'INHA a été menacée un temps et que maintenant elle est bien ancrée dans les habitudes, certainement des historiens de l'art, mais est-ce qu'au niveau des politiques, c'est quelque chose qui est maintenant complètement fait partie du paysage? Est-ce qu'ils voient l'intérêt? Par exemple, est-ce que ça se traduit par un budget de fonctionnement suffisant, ou est-ce que, comme toutes les grandes institutions, vous souffrez un peu des budgets actuellement? Par exemple, je pense aussi au budget d'acquisition de la bibliothèque. Est-ce que vous arrivez à enrichir la bibliothèque de tout ce qui paraît d'important ou même de moins connu dans les ouvrages actuellement? Ou est-ce que c'est compliqué? Ça ne veut pas dire, évidemment, taper sur votre tutelle, et ça, je ne vous le demanderai jamais à ce micro. Mais simplement, est-ce que c'est pour vous, c'est une position confortable, ou vous avez du mal et vous avez besoin, par exemple, de mécénat pour un certain nombre d'opérations?
Alors, je répondrai à la fois que nous n'avons pas de mal, c'est-à-dire que c'est un exercice contraint, mais c'est un exercice contraint par nature. Nous sommes une institution qui dépend de deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture, et avec une répartition des dotations qui nous sont versées qui est réglée. Ça aussi, c'est une chose dont j'ai hérité. Le budget est loin d'être confortable, mais il permet de faire l'essentiel. Il l'a permis jusqu'à présent et il continuera à le permettre. Il est absolument évident que si nous voulons développer un certain nombre de projets spécifiques, il y a un besoin de financement extérieur et donc un besoin de mécénat fort. Je vais prendre juste un exemple, et ça anticipera peut-être en partie sur les programmes et sur la philosophie générale. Nous avons lancé à la rentrée 2017, ce mois-ci, un programme consacré à un répertoire du marché de l'art en France pendant l'occupation allemande. C'est un partenariat franco-allemand qui est mené avec la Technische Universität de Berlin et Bénédicte Savoie, avec une équipe dédiée à l'INHA, avec Emmanuel Polak qui est chargé de mission, le tout sous la direction administrative de Ariane James Sarrazin, qui est en charge du domaine de recherche qui est consacré aux collections, aux institutions et à l'économie de l'art, qui est, on parlera sans doute de la refonte des domaines après. Et puis Ariane James Sarrazin est aussi quelqu'un qui vient d'arriver à l'INHA, et ça me semble une arrivée très importante. Ce programme-là, il a évidemment un coût très important. D'une part, il implique une forme de volontarisme politique extrêmement fort, et il s'est fait avec un soutien extrêmement fort des gouvernements successifs. Et de ce point de vue-là, on ne peut que remercier la tutelle de l'avoir accompagné. Mais à aucun moment, il n'a été question de nous donner des moyens supplémentaires pour le mener à bien. Donc ces moyens supplémentaires, il faut aller les chercher ailleurs. Et évidemment, à ce moment-là, il y a une nécessité de mécénat qui existe, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Pour moi, il y avait une urgence très importante qui faisait qu'il valait mieux lancer le projet avant qu'il soit entièrement financé. Je suis assez confiant sur le fait que son intérêt scientifique et son intérêt aussi en termes de politique générale pour le pays fait que nous arriverons à rassembler ce mécénat. Nous avons besoin, pour le mener pendant 3 ans, à peu près de 500 000 euros. Donc c'est une somme raisonnable, somme toute, et dont je... Enfin voilà, on est en train de les rassembler. Il est encore trop tôt pour dire qu'on y a complètement réussi, mais un certain nombre de discussions sont entamées. Effectivement, si l'on veut à la fois mener des nouveaux programmes, faire en sorte que ces programmes soient en prise directe avec des questions qui sont des questions qui ont un impact sur l'ensemble de la société et pas seulement sur le monde des historiens de l'art. Il ne s'agit pas du tout d'opposer une recherche fondamentale et une recherche appliquée qui aurait de l'intérêt pour tout le monde. Il s'agit juste de dire qu'à un certain moment, être à l'écoute des demandes de la société est une chose importante pour nous comme historiens de l'art. Et que cela a à voir avec cette volonté de s'ouvrir sur le monde extérieur. Je pense qu'on sait, on peut très bien aujourd'hui expliquer aux politiques que la recherche fondamentale en histoire de l'art a un intérêt réel, même quand elle a l'air de ne pas avoir d'utilité immédiate, parce qu'on a malheureusement un exemple très concret et auquel les politiques sont sensibles pour tout un ensemble de raisons, que si on n'avait pas eu de recherche fondamentale sur le patrimoine archéologique dans les pays du Moyen-Orient, aujourd'hui, pour ce qui concerne la Libye, qui est un domaine qui monte de façon extrêmement importante, sur le sud de la Méditerranée, face aux destructions, aux pillages, aux trafics en tout genre, on n'aurait absolument aucun outil. Et que ça n'est que parce qu'il y a eu un investissement dans le long terme de nos sociétés, de la France en particulier, et on a des collections à l'intérieur des archives de l'INHA et des collections patrimoniales de façon générale qui montrent que c'est un effort déjà très ancien et dont les générations précédentes avaient tendance plus naturellement à comprendre l'enjeu, je dois dire. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas de solution. Donc expliquer ça aujourd'hui est sans doute plus simple en disant, voilà, ne nous demandez pas de faire uniquement des programmes qui soient des réponses à des questions qui sont des questions de la minute. Il peut y en avoir, et il me semble important. J'ai du mal à penser que faire un répertoire des acteurs du marché de l'art en France pendant l'occupation allemande, ça soit une question de la minute, parce que c'est une histoire suffisamment ancienne pour qu'elle ait pu être traitée avant. Il se trouve que ça devient une question de la minute, parce que précisément, on a tellement tardé à le faire que pour moi, il y a une urgence morale à le traiter. Et une urgence historique aussi, c'est-à-dire que historienne, c'est un sujet d'histoire de l'art majeur qui concerne à la fois l'histoire des collections, la meilleure connaissance de nos collections, l'histoire des institutions artistiques, enfin sur tous les terrains il y a des points extrêmement importants.
Alors, j'allais dire encore une fois, avant d'arriver à ce détail, qui sont les personnes, il y a les personnes qui travaillent effectivement. Alors, il y a d'une part les équipes permanentes, dont Ariane James-Farzin, par exemple, fait partie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est là pour 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui travaillent à l'INHA, est-ce qu'il y a des permanents ou est-ce qu'il y a uniquement des personnes qui travaillent, qui sont là pour 3 ans et qui ont... comment ça fonctionne, en fait, au point de vue...
Alors, en fait, le fonctionnement de l'INHA est lié à un ensemble de contraintes administratives un peu complexes. Je vais
très rapidement,
grâce aux auditeurs, de rentrer dans les détails.
Mais c'est de savoir s'il y a des équipes permanentes et des chercheurs invités, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça encore ?
Il y a les deux et c'est plus compliqué que ça encore. Il y a effectivement, d'une part, des conservateurs et des personnels de la bibliothèque qui sont permanents, dans la mesure où ils ne sont pas, où ils ne demandent pas une mutation ou autre. Donc là, on est avec un corps extrêmement stable.
C'est ça, je parle plutôt de la recherche, effectivement.
Pour ce qui concerne la recherche, il n'y a pas en propre de personnel permanent à l'INHA. C'est-à-dire que tous les postes à la recherche sont occupés par des conseillers scientifiques, des pensionnaires, des chargés de mission, des chargés d'études et de recherche qui correspondent à différents niveaux d'avancement dans les recherches et d'autonomie aussi d'ailleurs dans la recherche et qui fonctionnent sur des principes de mise à disposition, de salaire en CDD ou de détachement donc de l'université, des musées, donc des conservateurs du patrimoine. Nous avons très largement ouvert les postes de ce point de vue-là. J'insiste beaucoup sur ce fait que nos postes sont maintenant ouverts à l'ensemble des professionnels dépendants des ministères de la culture et de l'enseignement supérieur, ce qui veut dire aussi les enseignants en école d'art, en école d'architecture, en école de design, etc. Ce qui veut dire aussi les chercheurs au CNRS et dans les recrutements récents de conseillers scientifiques. J'ai parlé tout à l'heure d'Ariane James-Sarrazin. Elle est conservateur du patrimoine. Elle tient à ce que elle m'a-t-elle dit à ce que je ne féminise pas ce nom, ce qui est ma tendance naturelle en contemporanéiste que je suis, mais donc je vais me garder de le faire.
C'est bien pour les tribunes de l'art, en général on n'aime pas trop féminiser.
Mais ça non, je sais,
plutôt un réactionnaire de ce point de vue-là.
Je sais que ça vous va, mais... et puis nous avons aussi recruté Claire Bosque-Thiessé, qui vient, elle, du CNRS, et c'est la première fois. Et voilà, ça fait partie de choses qui étaient, enfin peut-être, je dirais, il y avait un certain nombre d'habitudes à l'INHA qu'on avait tendance à présenter comme des obligations. Et en fait, j'ai simplement, avec aussi l'aide des équipes de l'INHA, en particulier du directeur général des services, Tony Legouda, fait en sorte de faire une espèce de toilettage, de regarder où on avait en réalité des marges de manœuvre plus importantes. Alors, pour moi, on devrait avoir une politique de recrutement qui soit vraiment une politique d'excellence, et le faire pleinement. On devrait aussi pouvoir accueillir des chercheurs, pas seulement étrangers comme chercheurs invités, ce que pour l'instant on ne peut pas vraiment faire, puisqu'il y a très 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 peu de congés sabbatiques pour recherche en France. Si on pouvait offrir cette possibilité-là, ça serait une chose importante. Donc ça fait partie des choses, des discussions que j'ai avec les tutelles. Et on devrait aussi pouvoir faire en sorte d'avoir des programmes de recherche au long terme. C'est-à-dire que pour l'instant, on est assez dépendant, mais ça se change assez facilement, on est en train de le changer, des arrivées successives de qui est disponible pour venir travailler. Or, je pense qu'un centre de recherche doit pouvoir mener des politiques de recherche au long cours, doit pouvoir le faire en s'appuyant très fortement sur ses ressources, et en particulier sur les fonds d'archives dont il dispose ou qu'il constitue. Tout ça doit vraiment pouvoir fonctionner en synergie. On a des exemples dans le passé qui ont fonctionné de cette façon-là, mais je pense qu'on peut les multiplier. Et je pense que nous venons d'accueillir à la direction des études et de la recherche une nouvelle directrice qui est France Nerlich, qui est professeure à l'université de François Rabelais de Tours, qui est une spécialiste des échanges franco-allemands au XIXe siècle. Elle est entièrement dans cet état d'esprit, donc elle y travaille de façon importante.
Ça tombe très bien, puisque justement j'allais aborder dans les programmes le gros morceau que constitue le département des études et de la recherche, avec beaucoup de... J'ai regardé sur le site internet, en fait, et j'ai vu des choses dont je ne me rappelais même pas et qui pourtant m'intéressent beaucoup, et je pense intéressent beaucoup les auditeurs et les lecteurs de la Tribune de l'Art. Alors, vous parlez de programmes au long cours. Il y a eu des programmes au long cours. Vous l'avez cité tout à l'heure. Le RETIF était un programme au long cours. J'ai vu que sur le site, il est marqué en veille. Est-ce que ça veut dire qu'il est terminé ou parce qu'on découvre tous les jours. Moi, je pense que j'ai un tableau que je vais publier sur la Tribune de l'Art, qui est un tableau italien dans une église près de Paris. Donc, il y a encore des choses à trouver.
Ça veut dire qu'il est possible, effectivement, d'y ajouter à la marge un certain nombre d'éléments, mais qu'il n'y a pas d'équipe qui travaille en permanence. Il n'y a plus d'équipe dédiée. C'est un programme qui a duré extrêmement longtemps. Et effectivement, il y a un moment où il faut mettre les ressources scientifiques.
Bien sûr, on comprend, mais il faut qu'il soit mis à jour parce qu'il va y avoir des changements, des changements d'attribution, des découvertes.
Servane Darny, qui est pensionnaire et qui a travaillé notamment sur la préparation des expositions dont nous avons parlé tout à l'heure, est effectivement en charge de recueillir un certain nombre d'informations et de les ajouter sur la base de données. Mais c'est vrai que il faut arriver à avoir à la fois une certaine souplesse, que les choses ne durent pas indéfiniment n'importe comment, qu'on ait des programmations qui soient claires et qu'en même temps on ait une certaine visibilité. Ce qu'on demande aux conseillers scientifiques qui définissent les programmes, c'est effectivement d'arriver à définir des programmes qui ont un calendrier précis et qui permettent de pouvoir anticiper le moment où la recherche sera, au moins une partie de la recherche sera close, qu'on puisse la publier ou en faire quelque chose, qu'on a fait par exemple avec cette exposition, avec cette série d'expositions, et puis qu'ensuite on puisse effectivement la rouvrir s'il y a matière à le faire, ou le nourrir d'une autre façon. Je pense que ça fait aussi partie des chantiers sur lesquels on travaille pour tout ce qui concerne le numérique. C'est le fait que si on a des bases de données qui sont disponibles auprès du public le plus large possible. Aujourd'hui, donc l'INHA est engagé aussi depuis le printemps dernier. C'est une décision que j'ai prise aussi assez rapidement sur un principe d'ouverture complète des données, d'ouverture complète des images. On n'a pas beaucoup communiqué dessus parce que on préférait le faire de façon assez tranquille, mais c'est un outil de politique publique extrêmement important. À ce moment-là, comme on l'a fait, par exemple, dans un certain nombre de programmes, il peut tout à fait y avoir en ligne une partie qui puisse être enrichie en ligne avec une modération, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de garantir la qualité scientifique.
Oui,
mais ça n'est plus exactement la même chose.
En faisant appel à des chercheurs extérieurs, à l'INHA.
Exactement. On a fait ça notamment pour un certain nombre de programmes menés sur des répertoires d'antiquité, des programmes qu'on a menés avec le Getty en particulier, en faisant en sorte qu'il puisse y avoir cette formule-là. Et par exemple, sur le répertoire des acteurs du marché de l'art en France pendant l'occupation, l'idée est d'aboutir à un moment à un outil de ce type-là. C'est-à-dire que l'outil puisse être consultable en ligne, et puis que s'il y a des informations supplémentaires, elles puissent venir enrichir l'outil.
Alors, justement, on parle donc là, dans le département d'études de la recherche, même le RETIF, c'est un sous-ensemble de l'histoire du goût. Donc on verra après si c'est quelque chose qui va continuer sous cette forme-là. Mais là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins en début, qui sont en veille. Alors, par exemple, la base d'Harry Béric est en veille, alors qu'elle n'est pas encore forcément très développée. Il y a d'autres choses qui sont les salons en France, qui sont hébergés par d'autres systèmes que, et j'y viens, Agora. Donc, la base de données collective, en fait, de l'INHA, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Or, Agora est quelque chose de très pratique, de très utile, que j'utilise beaucoup, dont j'avais parlé au tout début, et il y a eu un changement il y a quelques années, et c'est devenu beaucoup moins pratique. Je pense que quelqu'un qui ne sait pas chercher dans Agora voulait l'ouvrir effectivement à plein de gens, on n'arrive pas à trouver, c'est compliqué. La pratique d'Agora est compliquée. J'ai cru comprendre, j'ai entendu qu'il y avait une refonte de tout cela et que les bases de données allaient être plus simple. Est-ce que vous me confirmez ce point ?
Je vous confirme totalement ce point. Ça, c'est là aussi quelque chose qui est engagé depuis maintenant quelques années, une réflexion importante. Il y a, s'occupant d'Agora, une équipe qui est particulièrement dynamique, avec un responsable, Antoine Courtin, qui est très présent, et d'ailleurs qui est aussi... qui fait très bien la transmission des savoir-faire en organisant des lundis du numérique à l'INHA, qui permet à des non-spécialistes de bénéficier des apports de toutes ces recherches d'histoire de l'art numérique. Nous sommes engagés dans une refonte d'Agora. C'est long. Cette fois-ci, nous ne voulons pas échouer de ce point de vue-là.
Il faut peut-être demander l'avis des utilisateurs, parce que souvent, c'est ce qu'on oublie de faire.
Je crois que c'est ce qui est fait, hein, parce que ça fait partie du cahier des charges auquel ils sont effectivement très sensibles. Et je dois dire que pour voir les... De temps en temps, je n'en ai pas moi-même, mais pour de temps en temps qu'on me montre les comptes tweets des collaborateurs de ces projets-là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de circulation de l'information et beaucoup de demandes, de retours d'expérience, et que de ce point de vue-là, le passage sur les réseaux sociaux importants de l'INHA produit des effets aussi très forts. De retour d'expérience, d'affinement d'un certain nombre de choses. J'ose espérer que d'ici un an, la refonte sera complète et qu'on arrivera à mettre en place des bases de données qui soient plus faciles d'utilisation, dont les résultats puissent être moissonnés par les moteurs de recherche, alors qu'aujourd'hui, il faut rentrer à l'intérieur d'Agora pour aller chercher les informations. Et c'est aussi pour ça que dans tous les cas, vous citiez l'exemple des salons, dans tous les cas où on peut travailler avec un hébergement qui, de ce point de vue-là, est plus ouvert, on le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fétichisation du fait que ça soit hébergé par Agora en tant que tel. Le but est vraiment... Je crois que l'INHA est orienté véritablement, et c'est ce que je souhaite vraiment accentuer, par un esprit de service public. Quand je dis que nous sommes une institution nationale avec une mission nationale, c'est véritablement cela. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de faire en sorte que le travail qui est fait en histoire de l'art sur l'ensemble du territoire national soit disponible sur l'ensemble du territoire national pour tous les types de publics, du plus spécialisé au moins spécialisé, et que tout le monde comprenne que effectivement c'est un outil possible pour l'ensemble de nos concitoyens.
Alors si on regarde les différents, est-ce que tout cela est encore d'actualité? Est-ce que ça va être enrichi? Alors je sais par exemple qu'effectivement Cécile Scaillerès travaille au Louvre sur le répertoire des peintures françaises du XVIe siècle, ça c'est passionnant également. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses déjà dans Agora. Est-ce que c'est un programme toujours en cours celui-ci? Peut-être.
Ce sont des programmes qui sont vraiment liés à des personnes extérieures à l'INHA. Oui. C'est aussi le cas de la base ibérique. Et d'une certaine façon, je dirais que leur alimentation ne dépend pas directement de l'INHA.
Plutôt de Louvre, en fait, dans ces cas-là.
Exactement.
D'accord. Alors, j'ai vu aussi que vous citez, et je me suis rappelé, effectivement, ça existe, mais malheureusement, c'est sur CD-ROM, et vous voyez, même mon ordinateur n'a plus de CD-ROM, c'est vraiment quelque chose d'un peu désuet. C'est Un aux grands hommes, une base de données sur les sculptures monumentales représentant des grands hommes. Et est-ce que, par exemple, ça ira sur la base de données?
Oui, ça ira sur la base de données. Ça fait partie de tous ces instruments qui doivent être reversés sur cet outil disponible généralement.
Alors, en revanche, par exemple, est-ce que le programme des tableaux français en Europe centrale est toujours d'actualité? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre?
C'est pareil, ça ne dépend pas directement de nous. Alors, à moins qu'il y ait un recrutement qui fasse qu'on arrive avec quelqu'un
qui veut aller chercher des œuvres
françaises.
C'est passionnant, ça. Ce sont des
œuvres françaises
dans les pays qu'on ne connaît pas ou va rarement, qu'on ne connaît pas, mais qui sont plus ou moins fréquentées.
On est parfaitement d'accord. On a très besoin de ce type de base. Comme ma spécialité est beaucoup l'art des États-Unis, je connais mieux la base qui avait été faite pour les œuvres,
les sculptures,
françaises aux États-Unis, ou les tableaux des États-Unis dans les collections françaises. Ça a fonctionné de façon assez efficace et assez
rapide. Ça continue toujours, c'est l'ordre de Marjorie.
Et ça continue, tout à fait. Oui, c'est l'ordre de Marjorie qui fait ça.
Le répertoire d'art et d'archéologie, c'est fini depuis très longtemps, et c'était quand même très utile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors évidemment, on peut chercher dans les bases de bibliothèque, dans les bases de la bibliothèque de l'INHA, mais il y avait quand même ça allait chercher dans les articles, etc., et c'est terminé. C'est quelque chose qui était fait en partie par le Getty, je crois, et par la bibliothèque Doucet à l'époque, je crois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Il y a un gros gap maintenant, je crois que c'est depuis 89 que c'est plus répertorié, et c'était quand même très utile, ça.
Ça fait beaucoup trop longtemps que ça n'existe plus. C'est-à-dire que ça avait été relancé dans un partenariat INHA-Getty, dont le Getty, en 2008, s'est retiré après la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, on n'a plus cet outil, on peut le regretter. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils alternatifs et que c'est surtout sur cela qu'il faut travailler, faire en sorte qu'on ait des systèmes de métadonnées correctement organisés, des répertoires ordonnés correctement avec une accessibilité par les moteurs de recherche. C'est plutôt sur ça qu'on travaille, sur des bonnes indexations.
Et vous pensez, parce que pour le moment, je ne vois pas d'outil unique qui me permettrait de chercher et de trouver dans une petite revue d'une université, même pas d'une université, peut-être d'une société savante dans le Perche, quelque chose sur un artiste sur lequel je travaillerai.
Non, on est bien d'accord. C'est un des gros manques. Mais alors, un des outils qui permet, je dirais, de... En tout cas localement, mais à partir du moment où le catalogue est accessible en ligne de façon plus large et lui aussi moissonnable par les moteurs de recherche, c'est de faire en sorte, ce que nous essayons de faire et ce que les budgets d'acquisition permettent à peu près, d'être effectivement le plus exhaustif possible dans les acquisitions de la bibliothèque de l'INHA. Ce qui concerne la France, alors ensuite, répertorier correctement les numéros de revue dans le détail, etc., c'est évidemment un travail extrêmement important. Et je pense que c'est plutôt par là que passent les choses.
Alors là, je parlais d'histoire du goût. Il y a l'histoire du goût, l'histoire de l'art contemporain, auquel vous devez être sensible, l'histoire de l'art médiéval, qui peut d'ailleurs se rapprocher un peu de l'histoire du goût, parce que finalement, les feuillets et manuscrits enluminés du Moyen-Âge, c'est une base de données dans l'équation française, ça pourrait très bien être dans l'histoire du goût. Donc est-ce que cette hiérarchisation ou cette manière de classer les différentes études, vous continuez, vous êtes en train d'y repenser. Je pense que c'est ça l'objectif.
Alors,
de votre
on y a repensé. Sur cela, nous avons pour le coup vraiment avancé. Il y a 8 domaines de recherche à l'INHA, qui est chacun piloté par un conseiller scientifique. Donc un conseiller scientifique, c'est quelqu'un qui a des responsabilités scientifiques importantes et qui a donc une vraie légitimité dans sa discipline, avec une spécialité forte. Nous avons réfléchi beaucoup, et en lien en particulier avec les associations d'historiens de l'art, la PAO d'un côté, le CFHA de l'autre, et puis les représentants des différents départements d'histoire de l'art qui existent en France, et puis des conversations avec le plus possible de parties prenantes, en particulier dans les musées, à une refonte de ces 8 domaines de recherche. Donc les termes que vous avez employés ne sont plus employés. On est en train de réviser le site internet pour faire en sorte que tout soit harmonisé, mais comme vous le savez, ce genre de choses prend un certain temps. Et donc nous avons en fait organisé l'ensemble des champs en 4 domaines chronologiques et 4 domaines thématiques, avec l'idée que du coup, de l'extérieur, des responsables, des correspondants soient identifiables par qui que ce soit en France qui s'intéresse à l'histoire de l'art. Les domaines périodiques, nous avons fait exprès de les définir précisément par des bornes chronologiques, mais par des bornes chronologiques problématiques. C'est-à-dire que plutôt que nous avons fait en sorte que ça a été fait au mois de juin, qu'il n'y avait pas à l'INHA la période que le français nomme très maladroitement soit période moderne, soit début de la période moderne, enfin ce que les anglo-américains appellent « early modern », ça n'était pas représenté dans les domaines de recherche de l'INHA, ce qui est une sorte de paradoxe, évidemment. Donc nous avons décidé la création d'un domaine périodique qui couvre cette période, et nous l'avons défini par des bornes qui sont le 14e au 19e siècle, qui ne sont pas les bornes, qui sont celles de l'université, et peut-être un peu plus celle des musées à certains moments,
mais même pas systématiquement. Celle du concours des musées, puisque
et c'est... en tout cas pas celle du concours des musées, ça c'est sûr et certain. Mais avec l'idée qu'effectivement, on attirait l'attention sur le fait qu'un bornage chronologique, ça n'est pas une chose figée dans le marbre et qui conduit à...
C'est presque le bornage chronologique de la tribune de l'art.
Ah, pardon, là. c'est-à-dire l'idée qu'on est avec que la période précédente va jusqu'au XVe siècle, et que suivant la manière dont on étudie un objet qui remonte au XIVe siècle, on l'étudie plutôt comme un objet médiéval ou plutôt comme un objet de la Renaissance. Et puis ça tient aux objets, etc. Et même chose pour le bornage de l'autre côté, puisque la période suivante va du XVIIIe au XXe siècle. Donc on a redéfini ces domaines de telle sorte qu'on ait vraiment une identification claire et qu'ensuite on puisse travailler de façon active avec les gens qui représentent l'ensemble de ces domaines. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple d'Ariane James Sarrazin qu'on prenait tout à l'heure, on pourrait prendre un autre exemple, mais...
J'ai publié récemment un très beau catalogue Rigaud que je n'ai pas encore recensé parce qu'il faut le lire et qu'il est tellement gros que j'ai du mal. Mais je conseille à tous les lecteurs de l'acheter parce que c'est un très beau livre.
Voilà,
excusez-moi, j'en profite. Non, mais parce que c'est vrai que je suis un peu coupable de ne pas en avoir parlé.
Non, mais c'était pour ça que je prenais cet exemple, parce que dans vos studios, le catalogue résonnait sous les yeux. C'est le fait qu'elle, depuis la rentrée de septembre, elle anime le domaine qui est le domaine histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art. Elle y vient avec. Sa spécialité particulière qui se reflète dans ce travail magistral sur Hyacinthe Rigaud. Mais évidemment, le domaine ne va pas s'occuper de Hyacinthe Rigaud. Elle va mettre au bénéfice de l'ensemble de la communauté des historiens de l'art, des jeunes chercheurs, les outils qu'elle a acquis et qu'elle a mis au point dans ce cadre-là pour réfléchir plus largement à ce que recouvre le domaine.
D'accord. Parlons un mot maintenant du Festival d'Histoire de l'Art, puisque c'est quand même un rendez-vous maintenant, je vais pas dire incontournable, c'est pas un beau mot, mais bon, essentiel pour la communauté des historiens de l'art. Vous êtes forcément très impliqué, puisque, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les trois participants, c'est le ministère de la Culture, c'est l'Institut national d'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau. Et donc, comment vous voyez l'avenir du Festival d'Histoire de l'Art? L'année prochaine, je crois que c'est la Grèce, c'est cela ?
C'est le pays invité, la Grèce, et le thème est le rêve.
Voilà.
Et on a déjà pensé et fixé le thème et le pays invité pour l'édition suivante.
On peut le dire déjà ou pas ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, puisque ça sera le peuple et pour le thème et les pays scandinaves comme pays invité.
D'accord.
L'idée étant de pouvoir travailler très en amont, et ça permet de répondre à votre question. C'est-à-dire que l'idée, l'INHA assure la direction scientifique du festival. La directrice scientifique du festival est Annick Lemoine, celle qui a pensé le festival au départ. Donc c'est aussi une grande chance de pouvoir travailler avec elle, puisqu'elle elle a eu cette énergie de le mettre en place.
C'était autant où elle était au cabinet de
Frédéric Mitterrand, et maintenant elle le fait de façon importante. La collaboration avec le Château de Fontainebleau et Jean-François Hébert et avec le ministère de la Culture est extrêmement efficace. Je pense que c'est le bon endroit pour le faire. L'idée étant de mieux l'intégrer avec l'ensemble de la politique scientifique de l'INHA. Nous avons une revue, Perspective. L'idée est de faire en sorte que ces thèmes et ces pays invités puissent rebondir de la revue au festival lui-même, dans un sens ou dans un autre. Les discussions se font. Enfin, moi, un de mes gros efforts, je dirais, comme directeur de cette institution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une circulation de l'information dans ces différentes branches. Donc, c'est par exemple d'organiser des réunions plus courantes entre les équipes de rédaction, les équipes scientifiques, les équipes de la bibliothèque et l'équipe du festival. L'autre chose sur laquelle on est d'accord et de façon importante avec Jean-François Hébert en particulier, c'est le fait qu'on puisse avoir des événements du festival qui circulent. Parce qu'un des enjeux absolument majeurs du Festival de l'Histoire de l'Art, et qui est aussi pour moi l'enjeu majeur de l'INHA, c'est de remplir pleinement cette mission qui est une des missions de l'INHA, qui est celle de la diffusion de l'histoire de l'art. Nous sommes dans une période où le besoin d'histoire de l'art, sans que forcément les gens s'en rendent compte, est en réalité extrêmement important. On le voit sur toutes les décisions, et ça n'est pas à vous que je vais l'apprendre, toutes les décisions patrimoniales, tout ce qui accompagne les politiques d'exposition ou autres, il y a un besoin majeur de formation des concitoyens pour pouvoir prendre des décisions qui soient des décisions éclairées. De la même façon, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, dans lequel les images occupent une place beaucoup plus importante que ce qui a pu être le cas avant. En tout cas, leur multiplication fait que c'est beaucoup plus difficile à gérer. L'histoire de l'art est un outil absolument fondamental. Et le festival, dans sa forme actuelle, est sans doute ce qui répond le mieux à cet objectif. Il le fait remarquablement. Je dois dire que j'étais très impressionné cette année par la quantité et la qualité et la diversité du public qui assistait à ce festival, par l'implication même de la ville de Fontainebleau, c'est-à-dire qu'on sent que ça a véritablement pris. Et là encore, c'est une chose que j'ai trouvée. Il se trouve que le pays invité cette année était les États-Unis, donc j'ai peut-être pu un peu plus y participer parce que c'est mon domaine de spécialité plus grand. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très fort. On peut se servir de ce modèle pour diffuser beaucoup plus largement sur l'ensemble du territoire. On est en train de travailler de manière beaucoup plus serrée avec le ministère de l'Éducation nationale. L'éducation artistique et culturelle est une des priorités de la présidence actuelle de la France. C'est une priorité qui a été réaffirmée par la ministre de la Culture et par le ministre de l'Éducation nationale. Donc d'une certaine manière, nous les prenons au mot et nous travaillons à partir de ce cadre-là, avec leur soutien, pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait un ancrage beaucoup plus fort de la discipline sur l'ensemble du territoire. Alors c'est une politique au long cours, à long terme, qui est compliquée à mettre en place. Nous n'allons pas venir d'en haut pour dire un petit peu partout voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes en ce moment en train de faire une politique de recensement des besoins sur le terrain, notamment d'arriver à comprendre comment faire en sorte que l'histoire de l'art puisse exister de façon réellement exigeante, c'est-à-dire sans rien céder en termes de qualité dans des territoires, en particulier de la région parisienne, où la population n'y a pas accès, mais ne voit même pas l'intérêt que ça pourrait avoir pour elle. C'est vraiment un travail très important. Et c'est ce que je disais au début de cet entretien. C'est ça, ouvrir l'INHA. C'est faire en sorte qu'effectivement, les portes puissent être largement ouvertes et qu'on puisse vraiment faire en sorte que l'histoire de l'art soit accessible à tous. Alors la difficulté, c'est sans rien renier de l'exigence.
Très bien. Vous avez parlé de perspective, venons à perspective, donc la revue de l'INHA, et aux publications, votre programme de publication. Alors perspective est une revue, alors c'est certainement moi, c'est mon tropisme, c'est vrai que moi j'aime bien les œuvres, j'aime bien les publications sur les artistes, sur les œuvres, etc. C'est différent. Perspective, c'est plutôt un peu de la théorie, c'est une réflexion sur l'histoire, sur la discipline de l'histoire de l'art. Je me trompe ou pas, et est-ce que ça va être continué comme ça?
Oui, perspective. Enfin, l'idée de perspective, c'est de mettre à disposition des historiens de l'art français les réflexions méthodologiques, théoriques et les avancées en termes relativement général de l'histoire de l'art telle qu'elle est pratiquée internationalement. Et puis de faire en sorte que l'histoire de l'art telle qu'elle est pratiquée en France soit diffusée internationalement. Je pense que de ce point de vue-là, elle occupe un créneau qui est un créneau très précis. C'est comme ça que l'avait conçu Olivier Bonfait.
Et je pense que une ligne qui est toujours la même.
Il a vraiment très très bien identifié un besoin qui est un besoin fondamental. Judith Delphinaire, qui prend la suite d'Anne Lafont à la rédaction en chef, a l'idée de poursuivre ce mouvement, peut-être de plus en systématiser les différents axes, d'avoir une politique numérique également importante, une politique de traduction aussi forte. Un des enjeux majeurs de l'INHA, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire de l'histoire en français, parce qu'on pense différemment dans une langue différente, mais qu'en même temps, ce qui est fait de ce point de vue-là circule. Et on sait très bien aujourd'hui que la majorité des chercheurs des autres pays ne parlent plus une autre langue que leur langue nationale plus l'anglais. Donc il y a un vrai enjeu derrière cela. Il y a une véritable politique éditoriale qui est mise en place, qui concerne Perspective, et puis vous parliez des publications, qui concernent aussi les publications. L'INHA a lancé au mois de juin, juste avant le Festival de l'Histoire de l'Art, ce qui nous a permis de les présenter, ses propres éditions, ses propres publications. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des co-éditions. avec, je crois, des ouvrages importants.
Un
ouvrage qui est un ouvrage de recherche fondamentale, qui est le livre de Robert Klein sur la techné dans l'histoire de la Renaissance, qui est sa thèse entreprise sous la direction d'André Chastel. C'est une thèse qui était restée inédite jusque-là, mais qui était dans les archives de l'INHA, où elle avait été déposée par Henri Zerner pour être intégrée aux archives Chastel. Donc on est dans une histoire de passeur, et pour moi, l'enrichissement des archives passe aussi par cela. L'INHA a vocation à être le centre d'archives des historiens de l'art français de façon générale. Nous allons mener une politique très volontariste de ce point de vue-là, avec publication. C'est une publication, je crois, si ce livre avait été publié au début des années 1960, quand il a été écrit, il aurait bouleversé, je crois, très fondamentalement l'étude du maniérisme ou de la Renaissance tardive italienne. Et puis, il a des conséquences même philosophiques majeures. C'est vraiment un très grand livre. La situation française fait que, pour l'instant, le grand recensement de détails n'a eu lieu que sur Il Messaggero.
Je me sens coupable aussi, puisque voilà. Je ne l'ai pas lu encore.
Sont des choses qui arrivent. Et puis, nous avons lancé... Donc ça, c'est une collection qui s'appelle Inédit. Les prochains seront aussi issus de nos archives ou en collaboration avec d'autres fonds d'archives. Et puis une collection d'inédits, donc il y a 10 d'un côté, inédits de l'autre, qui est une collection qui publie des petits textes, des textes courts, mais aussi de grande qualité. Et donc les deux premiers textes que nous avons publiés sont la conférence inaugurale de la bibliothèque par Georges Didier Huberman, qui compare le modèle warburgien et le modèle... En doucettien, ça n'est pas très joli, mais peut-être qu'un jour on s'habituera à dire doucettien si on reconnaît l'importance de Jacques Doucet, qui, je crois, le mérite amplement. D'une façon qui était une façon très structurante pour la bibliothèque elle-même, pour ses collections, pour la manière de fonctionner. Inutile de préciser que Georges Didier Huberman est plutôt en faveur du modèle warburgien, mais il a rendu justice au modèle doucettien. Et puis, un petit livre d'Alain Schnapp sur une estampe de Piranèse, qui est une réflexion courte de rapport entre l'histoire des images, l'histoire de l'archéologie elle-même, qui a une vraie valeur de modèle. Donc, ces deux collections vont s'enrichir assez rapidement au fil de l'année et au fil des ans.
Et vous continuerez à faire des coéditions, je suppose.
Et nous continuerons à faire des coéditions. Simplement, l'idée est d'avoir une politique éditoriale structurée.
Et alors, ce qui me frappe toujours, c'est le nombre de thèses, parfois passionnantes, mais qu'on ne peut pas lire parce qu'elles n'existent pas. Alors, il y a de plus en plus d'éditeurs qui publient des thèses. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez également développé. Donc, c'est un objectif ou c'est
non,
juste...
Non, on garde le même principe. On a un prix qui est attribué chaque année... un choix de thèse avec un jury, une collaboration avec le CTHS et avec l'École des Chartes, qui permet depuis l'origine de l'INHA de publier une thèse majeure en histoire de l'art par an. Nous venons de publier au printemps aussi la thèse de Larissa Driansky, qui était consacrée à la question de la cartographie et la photographie et de l'installation dans les années 60, 1960-1970 aux États-Unis. Mais ça n'est pas c'est une collection qui, effectivement, a des publications qui portent sur toutes les périodes et tous les endroits. Je ne pense pas qu'on ait vocation à systématiquement sortir les thèses les meilleures. Je pense que garder ce principe de sélection est important. Nous ne pouvons pas, à nous seuls, combler les problèmes de l'édition française en histoire de l'art, mais évidemment se mettre au service de la possibilité de publier un certain nombre de choses, de publier des traductions, de faire publier en anglais un certain nombre de textes fondamentaux d'histoire de l'art français, ça nous semble vraiment très important. Les collections de colloques, etc., évidemment, continuent.
Le chapitre suivant, donc, c'est finalement les colloques. Vous êtes... poursuivre des colloques, des conférences, des journées, etc., d'études. Ça, c'est vous faire orienter plus dans un sens ou dans l'autre, ou ça va continuer un petit peu comme sur différents sujets très, très, très variés, en fait,
alors,
comme c'était déjà le cas.
Les sujets seront très variés. Ils sont liés aux programmes qui sont menés à l'INHA. Nous accueillons aussi des colloques ou des journées d'études qui sont co-organisés et en partenariat avec nous, mais ou, qui ne sont pas forcément directement liés à tel ou tel programme précis, parce que ça nous semble important de soutenir la réflexion de ce point de vue-là. Il y a notamment, au mois de novembre, nous aurons un grand colloque sur les périodiques culturels et artistiques dans le monde extra-européen. C'est un programme qui s'appelle Prospective d'art global, qui est un programme complètement international, qui est mené à l'INHA par Zahir Hamani, et qui, je crois, sera un colloque très marquant, qui remonte très loin avant le XXe siècle, qui est la période à laquelle on pense quand on pense à ce genre de choses. Mais il y a des périodiques des Antilles ou d'Inde ou de Chine remontant au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle qui sont pris en compte avec une équipe vraiment internationale. Il y aura beaucoup de... Enfin, nous allons continuer pour les colloques de ce point de vue-là avec une petite nouveauté à partir de cette rentrée, qui est le fait que nous avons équipé de façon permanente deux salles pour la coaptation vidéo, et que donc tout ce qui y sera organisé sera diffusé et diffusable, soit en direct dans un avenir très proche, soit de toute façon sur une chaîne YouTube dédiée, qui permet effectivement d'avoir une diffusion aussi plus large que ce que nous avions jusqu'à présent, où il fallait à chaque fois mobiliser une équipe de prise de vue, etc. C'est des choses assez simples, finalement, que de dire on a besoin d'avoir des salles équipées en permanence et qui permettent cette diffusion.
Ce qui est un peu un des regrets du Festival sur l'art, où il y a beaucoup de conférences passionnantes qui ne sont pas captées, comme on dit.
C'est ce sur quoi nous travaillons aussi, parce que l'idée, c'est de mettre au point ce système correctement en interne, là, pendant l'année, pour que le premier week-end de juin, où aura lieu le prochain Festival de l'Histoire de l'art, le dispositif soit complètement en place, qu'on ait pu identifier peut-être plus clairement les conférences que l'on va pouvoir capter, donc les mettre dans la bonne salle de ce point de vue-là, parce qu'il y a forcément des moyens limités. On ne va pas équiper l'ensemble du château de Fontainebleau
de caméras. D'enregistrement simple, ça pourrait se faire. Il y a des systèmes, il y a des sociétés qui font un enregistrement assez facile, audio simplement.
On est d'accord, mais ça a des coûts.
Oui.
Voilà. Donc l'idée est plutôt de faire un investissement, c'est-à-dire d'équiper des salles et de faire en sorte qu'on puisse ensuite ne pas multiplier le coût.
Les expositions maintenant, est-ce que vous continuerez à faire des petites expositions? Alors, vous n'avez pas de salle d'exposition, donc c'est un peu compliqué. Vous avez des petites salles, vous faites des fois des expositions dossiers. Est-ce que vous allez continuer à faire cela, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous songez plutôt de vous associer avec des musées, ou enfin, est-ce que les expositions ont un avenir à l'INHA?
Alors, nous avons une petite salle d'exposition traditionnellement, qui est la salle Longhi, qui est dans la galerie Colbert. En fait, depuis Vigipirate, cette salle n'est que très difficilement accessible. Et mon diagnostic, mais là encore,
je comprends pas bien le rapport avec Vigipirate.
Simplement parce que il n'y a pas de. Avant, les gens passaient naturellement par la galerie. Nous l'avons rouverte. Nettement plus là depuis la rentrée, vous avez peut-être
on n'est plus besoin d'être fouillé, parce que je doute que...
On a quand même besoin d'être fouillé, mais...
C'est une obligation, juste une question.
C'est une obligation
de votre part, ou
C'est une obligation de l'ensemble des établissements publics.
Parce que si je suis interrompu, je passe sans problème, c'est un peu absurde.
C'est une obligation, bon. Donc nous l'avons, elle bloque effectivement beaucoup de public, et en fait du coup, la décision qui a été prise est une décision de ne plus faire d'exposition dans cette salle, sauf occasion très spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les journées portes ouvertes qui ont lieu ce week-end, nous allons y faire une petite exposition tirée en partie des collections de la bibliothèque, parce qu'il y a un public nombreux qui y vient, mais ça va avoir une durée très limitée. De la même façon, au moment du colloque dont je parlais tout à l'heure du mois de novembre et de l'accueil du Congrès international des critiques d'art, nous allons aussi y faire une exposition, d'ailleurs en lien avec les archives de la critique d'art à Rennes qui dépendent maintenant de l'INHA, ce qui est une chose aussi très importante. Mais à partir du mois de janvier, cette salle sera utilisée, enfin sera mise à disposition de collectifs de chercheurs, l'appel n'est pas encore paru, mais je peux déjà l'annoncer, de collectifs de chercheurs qui feront une proposition d'utilisation de cet espace, soit pour y faire des expositions, des séminaires, des projections, ou une combinaison de tout cela, pour une période de 6 mois. Donc l'appel à candidature va bientôt partir, ça veut dire qu'il y aura 2 collectifs par an qui le feront, et volontairement, les collectifs sont assez ouverts de ce point de vue-là. Et Pour ce qui concerne la politique d'exposition, nous ferons deux choses. D'une part, nous avons recruté à la bibliothèque de l'INHA un conservateur du patrimoine, Rémi Cariel, qui a pour charge la valorisation des collections et qui est chargé de réfléchir notamment à la manière de faire des petites expositions dossiers dans la salle Labrouste, puisque nous avons un public très nombreux qui vient finalement, c'est peut-être d'abord à ce public-là que nous pouvons nous adresser, et lui faire connaître nos collections, faire connaître les recherches, ou faire en sorte que des recherches qui ne sont pas menées strictement par l'INHA puissent être diffusées par ce biais-là. Et puis, il est aussi chargé de réfléchir à des expositions des collections à l'extérieur. Nous avons une collection d'estampes extrêmement importante et d'art graphique de façon générale, qui est malheureusement trop peu connue, trop peu identifiée. Beaucoup de choses sont prêtées très régulièrement. Nous allons prêter de façon extrêmement importante pour l'exposition Gauguin, dont nous avons un fonds majeur. Nous allons prêter de façon importante pour l'exposition de Reims du Musée national d'art moderne. Nous avons prêté de façon importante pour l'exposition Matisse du Musée des Beaux-Arts de Lyon l'année dernière. L'idée est maintenant de faire en sorte que cette collection, en tant que telle, soit mieux connue, qu'elle vive, qu'elle s'enrichisse aussi de façon plus importante par des acquisitions et par des dons peut-être plus importants que ce que nous avons pour l'instant, et ça dépendra là aussi du mécénat. Le Fabienne Kérou, qui dirige le département patrimonial, en a la charge et la fait vivre de façon effectivement importante. Nous sommes en discussion avec des musées pour faire en sorte qu'il y ait une vraie exposition. Il faut trouver le bon sujet, le bon format, etc. Mais c'est vrai que pour moi, le fait qu'il n'y ait pas eu d'exposition importante des collections d'estampes de l'INHA depuis l'exposition qui avait eu lieu à Martigny à la Fondation Janada en 1992 est un petit peu embêtant. C'est-à-dire qu'en réalité, moi-même, je ne me rendais pas compte de la richesse de ces collections avant d'y arriver. C'est-à-dire que même Matisse est un sujet, est un artiste que je connais particulièrement bien. Le fait qu'il y ait une centaine d'estampes de Matisse, dont un grand nombre de monotypes, dans nos collections, et souvent des états qui viennent de Jacques Doucet, oui. Et puis viennent de Jacques Doucet des choses plus étonnantes. On a par exemple une boîte verte de Duchamp, pour prendre les choses d'un côté, et puis d'autre côté on a des recueils d'estampes. Alors on connaît assez bien parce qu'ils ont été publiés en partie certains de nos recueils d'estampes japonaises, mais il y a aussi des recueils coréens qui sont tout à fait remarquables, qui ont été un peu montrés dans des expositions dossiers dans la salle Longhi, mais ça n'a pas le relief que ça mériterait d'avoir, je dirais.
Alors j'ai une question plus large sur un autre sujet que l'INHA sur lequel j'aimerais conclure. Et est-ce qu'il y a des choses, l'INHA, des points que je n'ai pas abordés ou des annonces que vous souhaiteriez faire, ou est-ce qu'on a vraiment parcouru tout le...
Non, je crois pas, on n'est pas rentré dans le détail des domaines de recherche.
C'est très trop long, on a un peu plus d'une heure, pas plus.
On a absolument pas le temps.
Très bien. Alors la dernière question, elle porte sur une vidéo que j'ai vue sur internet et sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur la délimitation du ministère de la Culture.
Oui.
J'ai eu à ce même micro les auteurs Charles Personnaz, notamment que le co-auteur de Charles Personnaz, que je connais bien, Emmanuel Pellicot, pardon, voilà, son nom revient, pardon Emmanuel, ils sont venus débattre avec moi sur la. Ils veulent déplacer le champ du ministère de la Culture d'une manière qui me convient assez bien. Vous, c'est plutôt de mettre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation ensemble. Peut-être parce que là, vous êtes heureux, parce que finalement, vous dépendez un petit peu des deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux cela, en deux minutes ?
Ah oui, j'ai dit ça il y a longtemps, c'est vrai, dans une interview.
En préparant l'émission, j'ai trouvé ça.
Qui doit traîner quelque part. Oui, effectivement.
Peut-être n'y croyez-vous plus.
Alors, c'est-à-dire qu'en termes d'organisation administrative, je ne pense pas que la situation soit véritablement mûre. C'est-à-dire que je crains que les forces en présence fassent que ça ne puisse pas bien se passer. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, la question de la culture et la question de l'éducation sont très, très profondément liées. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de politique culturelle dynamique sans qu'il y ait une politique d'éducation extrêmement forte. On ne peut pas donner l'accès à la culture à tous sans une politique d'éducation forte. Et c'est pour ça que je me réjouis que, effectivement, l'éducation artistique et culturelle, au-delà d'une sorte de hochet comme ça qui est régulièrement agité, fasse l'objet d'un engagement fort. Et je dirais que j'ai actuellement le sentiment que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, est extrêmement attentif à cette question. Enfin, j'ai pu en parler avec lui et je vois qu'il est extrêmement attentif à cette question et que c'est un très, très bon signe. Donc, je suis très favorable à cela et je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important, pour répondre à ce dont vous parliez, que c'est beaucoup plus important qu'un recentrement du ministère de la Culture sur le domaine patrimonial. Je pense qu'il y a, nous avons en France un modèle de la culture qui repose sur un esprit de service public important, y compris pour la création, et qui serait dommage de le perdre. Mais ça n'a de sens que si on a une politique d'éducation renforcée. Ça n'a de sens que s'il existe réellement à l'école de l'histoire des arts. Je fais exprès de dire histoire des arts, puisque c'est il ne s'agit pas que de l'histoire des arts visuels, qui serait le domaine propre de l'histoire de l'art. Et je me réjouis d'ailleurs qu'à l'INHA, dans les bâtiments de la Galerie Colbert, on trouve aussi des équipes de recherche sur les arts du spectacle ou sur le cinéma, parce que c'est très fortement lié, ou sur la musique. On a besoin d'un enseignement en histoire des arts qui soit véritablement constitutif du socle commun de l'ensemble des apprentissages qui existent en France, au même titre que l'apprentissage de la lecture ou du calcul sur lequel on insiste tant. Il n'existe pas, enfin la forme de, il n'y a pas de mot pour le dire correctement, mais la forme d'illettrisme qui existe dans le domaine des arts visuels et du patrimoine, pour me recentrer sur ce qui est plus mes champs de compétences, est réellement problématique. Donc c'est vraiment là-dessus, me semble-t-il, qu'on doit mettre l'accent, et l'INHA est véritablement prêt à être un acteur de ce renforcement.
Je vous remercie et je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Et nous reviendrons bientôt dans une prochaine émission de la Semaine de l'Art.